Bonjour et bienvenue, bien sûr, et on est jeudi, comme tous les jeudis, bien sûr, c'est une belle journée ici à Rouen. Il n'y a pas de soleil, mais voilà, les gens ont du cœur, le soleil est là où vraiment nous le voulons, et directement dans le cœur. Je raconte n'importe quoi, Damien, c'est à force de te regarder. Donc voilà, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous, bien sûr, d'abord avec les sorties culturelles, l'agenda, donc voilà. Et il y a de quoi, nous allons vous parler de l'exposition sur l'Égypte antique, le Festival Rush. Et puis voilà, vous avez rendez-vous avec l'Instant d'Histoire, avec Doc Mansour. Bonjour, Doc.
Bonsoir.
Bonsoir. Ah oui, ça se dit aussi. Bonsoir, monsieur Damien.
Bonsoir, monsieur Ousmane.
Comment ça va ?
Eh ben, laisse-moi te dire que être assis assez de ce côté de la vitre, eh bien, c'est très reposant.
Merci de me... de m'encourager. Donc voilà, notre... notre invité est déjà en place. Donc voilà, monsieur Arne Dahl, donc qui représente Léo de Rouen, mais d'une autre façon, de différentes façons. Le Léo à table, si ça vous parle. Donc c'est, voilà, c'est lui. Intermède d'emploi, bien sûr, avant, ben, bien sûr, c'était Ayaz, il y avait ça aussi. Comment ça va, monsieur?
Ça va bien.
Bien la forme. Merci d'être là à l'heure. Donc voilà, il est 17h01. Nous allons partir en musique avec Léonie Pernet. Donc vous aurez le plaisir de le trouver sur les scènes du 106 durant le Festival Rush. Donc voilà, ce sera la journée du samedi. Donc voilà, on vous a parlé un peu, on vous a promis qu'on va vous parler un peu de la programmation. Donc voilà, samedi, donc vous avez rendez-vous avec elle, c'est elle qui fait l'ouverture. Fly, donc voilà, de Léonie, que vous aurez le plaisir de le trouver la journée de samedi 25 mai. Donc voilà, elle vous fera l'ouverture de cette journée. Donc voilà, c'est pas tout. Donc il y a aussi l'exposition donc sur l'Égypte antique, donc et sur l'hôtel de ville de Rouen. Donc voilà, vous pouvez vous balader dans l'hôtel de ville et profiter de toutes ces œuvres qui sont exposées là-bas, donc qui retracent un peu l'histoire de cette civilisation qui passionne. Et puis voilà, c'est du 6 au 18 mai, donc voilà, qui est organisé organisé dans le cadre du festival Africa Boom, donc qui est Madame Pellerin qui chapeaute ça chaque année et que vous aurez prochainement l'occasion de la voir ici avec nous grâce aux efforts de Monsieur Damien, bien sûr.
Oh, c'est mes efforts.
Donc c'est... voilà, vous avez une sortie pour nos auditeurs ?
Bah oui, t'en as parlé, le festival Rush, bien sûr, il y a Léonie Pernet, il y a plein d'autres artistes, hein, je vais pas pouvoir tous les faire parce qu'il y en a tout un tas, mais le samedi 25, on pourra retrouver Unschooling, Snap Ankles, Zombie Zombie, Kelly Lee Owens, de toute façon tout ça, on doit pouvoir le retrouver sur internet ou sur les petits fascicules du 106 que vous pouvez venir chercher dans notre studio, chers auditeurs. Sinon, puisqu'on parle musique et puisque ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé à cette chronique, mon cher Ousmane, bah, je suis retourné voir mes vieilles habitudes, je suis allé voir le 3 pièces Music Club, qu'est-ce qu'ils avaient pour nous ? Eh bien, ils ont ce soir de 20h à 23h, on aime bien sortir le jeudi soir, surtout les étudiants, il y aura Beach Youth et Dharma Bum. Alors, c'est deux groupes de rock un peu planants. Alors, évidemment, vous le savez, chers auditeurs fidèles, je suis complètement incapable de vous dire si c'est du trans-rock, du rock indé ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas le genre. En tout cas, j'ai écouté pour vous et j'approuve. Je vous conseille d'y aller, c'est vraiment sympa. Et demain soir, il y aura de 21h à 1h le Warehouse Party du 3 pièces Music Club. Avec là, pour le coup, c'est complètement électro avec Soul, Earth, Eubach et Mathouse. Voilà, c'est l'électro, c'est un petit peu la petite spécialité française qu'on aime bien. Et puis sinon, également, je vous ai repéré des petites animations, parce que dans ma vie de tous les jours, je suis également là pour vous, chers auditeurs, j'enquête pour vous. Dans ma vie quotidienne, j'ai remarqué que dans l'animalerie, jardinerie, poulain, qu'on peut vous retrouver rive gauche, il y a pas mal d'animations gratuites, sympas, comme ça, auxquelles vous pouvez aller si vous vous intéressez au sujet. Il y a notamment une exposition de vente de bijoux magnétiques, il y a des ateliers plantes aromatiques, des plantations de tomates cerises, des ateliers maquillage. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous aimeriez avoir la main verte, chers auditeurs, mais je pense que ça peut être intéressant et on vous tiendra au courant de comment ça évolue. Voilà Ousmane, moi, c'est tout ce que j'ai sous le coude.
C'est déjà pas mal. Et puis, bon, pour finir, donc, il y a deux places pour nos auditeurs qui nous écoutent, bien sûr. Donc, pour le concert de Abou Diarra, donc, qui est organisé par la Chapelle Corneille, enfin, qui se déroulera ce soir à partir de 20h à la Chapelle Corneille. Donc, il y aura. C'est quoi Abou Diarra ? Abou Diarra, il propose du blues ou mandingue. Il sera accompagné par son petit groupe. Donc il y aura Moussa Kouaté, donc qui sera au clavier, il y aura Amadou Daou, donc qui sera à la percussion. Donc voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, donc vous avez jusqu'à la fin de l'émission, donc vous nous appelez directement au 02 35 32 97 46, c'est 02 35 32 97 46, donc voilà, et vous avez juste jusqu'à la fin de l'émission, donc rappelez, il reste deux places pour assister à ce concert, donc qui retrace l'histoire mandingue. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les sorties, et puis le temps file, donc nous allons découvrir l'artiste Logic et Homicide, featuring avec Monsieur Eminem, qui est proposé par Doc Mansour. Pourquoi ce choix, docteur ?
Un, parce que c'est un morceau tonitruant. Et en fait, ces deux rappeurs-là, en fait, ils ont la faculté de régler leur compte avec tous les autres sur ce morceau. Déjà, avec l'introduction, vous allez comprendre avec la première phrase.
Donc, écoutez ça, bien sûr, sur les ondes de la radio HDR et le principe actif.
Why, Dad? Because you came out of my balls, nigga.
Fuck rap, bustle like an addict with a semi-automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, Slim Shady with rabies. I'm coming at the mouth, ain't nobody taking me out. Every single rapper in the industry, yeah, they know what I'm about. And I dare you to test me, cause not a single one of you motherfuckers impressed me. And maybe that's a little bit of an exaggeration, but I'm full of innovation and I'm tired of all of this high school. He's cool, he's not rap shit. Can a single one of you motherfuckers even rap shit? No, this ain't a diss to the game, this is a gas to the flame. Nowadays, everybody saying the same shit's lame. Like I'm on to the flame, I'm a rhythm and a killer. No, you feeling lyricism when I'm spilling and I'm feeling myself. Yeah, yeah, Bobby Bull, he been feeling himself. Man's metal like this can't be good for my health. When I rap like this, do I sound like shit? Well, it don't really matter cause I'm killing this shit. Yeah, I'm killing this shit. Oh yeah, oh yeah, I'm killing this shit. Bobby, how many times you been killing this shit? Find another round, goddamn, nigga shit. Fuck rap, bustle like an addict with a semi-automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no. Fuck that, Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, Slim Shady. There's nowhere to hide, we call this shit genocide. Hit them with that dude, then they die. We gon' leave them crucified, we call this shit genocide. I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes. No, we ain't fucking with that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illest of raps, call it yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, no, oh no, no, please do not do that. You gon' get smacked, you gon' make Bobby attack. You gon' make Bobby boy snap, you gon' make Bobby boy snap. Bobby boy, fuck rap, bustle like an addict with a semi-automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody
stay alive, even suicide, no fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, Slim Shady.
Like Jay-Z, jiggas up, you fuckers who didn't write anything are getting washed. Like bathing, young Hova, I know hitters like Yankees. Gun toters, the pull triggers like crazy. Unloaded, leave you shot up in your Rover. Your body goes limping, slumps over like A-Rod in a month low, but he just homered. Hold up, I said Rover because now your Rover is red. Like Red Rover, so you know what I meant. But I wrote over my opponents instead, making dark sounds. Cause I gotta keep breaking these bars down. I'll go slow for the speds. But when I go, like the Doberman said, I still think the roof would go over your head. Beast mode, motherfuckers about to get hit with so many foul lines. You think I'm a free throw? Figured it was about time for people to eat crow. You about to get outrhymed. How could I be dethroned? I stay on my toes like the repo. A behemoth in sheep clothes from the east coast to the west. I'm the ethos and I'm the goat. Who the best? I don't gotta say a fucking thing, no, cause I'm seasonal. But you don't wanna hear me spit the facts. Your shit is ass like a tailbone. Or you're trapped in your cell phone. I'm a chicken scratch, I'm a self-loathe. I don't wanna fucking listen to you spit your rap someone else wrote. Used to get beat up by the big kids. Used to let the big kids steal my big wheel. And I wouldn't do shit but just sit still. Now money's not a big deal. I'm rich, I wipe my ass with 6 mil. Big bills like a platypus, a caterpillar's coming to get the cannabis. I'm looking for the smoke, but you motherfuckers are scattering, battering everything. And I've had it with the inadequate man. I can see my dick is standing stiff as a mannequin. And I'm bringing the banana back in the fucking hibernic in the handkerchief. And I'm thinking of bringing the fucking fingerless gloves back. And not giving a singular fuck like fuck rap. I sound like a fucking millionaire with a derringer with a hair trigger. About the bear hug, fucking Terry and a Ric Flair dripping. Y'all couldn't hold a candle. At a prayer vigil when I vent, they compare me to a fucking air duck. I'm about to bare knuckle it, nah, fuck it. I'm gonna go upside the head with a Nantucket Africa fucking dab. Or the track is the blood I'm attracted, I'm attacking it. What Dracula, fuck that shit, I'm up back with a thud. Man, stop.
Look what I'm planning, planning. I'm planning to do all this while you're panicking. And you're looking and staring at mannequins. And I'm going to Fannikins trying to get up a Planikins. All of the Planikins, Sanikin, fan, Panikins. Well, all the Panikins, Sanikin, Anna in the cabana. You're in a cabana. I'm in a cabana and a chant. I'm in a cabana chanting on a stand-up banner. Well, you don't got the stamina, you're lacking the stamina. You're lacking the stamina while you're divorcing Harrison Ford and I'm in a Porsche and a floorboards. While I'm raw torrent. You're using way too many napkins. Papkins. Lapkins is chapkin. You're using chapstick and napkins while I'm papkin.
Vous avez compris, bien sûr, c'est Monsieur Logique avec Monsieur Eminem, Slim Shady, bien sûr, Homicide sur les ondes de la radio HTR et de Principe Actif. Et vous avez rendez-vous juste après ça avec l'instant d'histoire avec Monsieur Damien.
Chaque lundi à 21h, retrouvez Black Voices, une sélection du meilleur de la musique panafricaine et transatlantique. Afrobeat, reggae, salsa, funk, Black Voices sur HDR, c'est le lundi à 21h, rediffusé le vendredi à 10h, 99.1 ou www.radiohdr.net.
Les années jazz, c'est le rendez-vous jazzy de tous les samedis, dès 18h sur Radio HDR. Présenté par Michel Jules, venez découvrir avec nous les jazzman des années 70 et les événements rouennais autour du jazz. Les années jazz sur HDR, c'est chaque samedi à 18h. Rediffusé le mercredi à 19h, 99.1 FM. Retrouvez toutes les émissions sur radiohdr.net.
Le pire reste à venir, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. 8h, 9h, Monsieur Mosquito, Guy Moquet et deux qui s'entremêlent et se passent les micros pour vous accompagner le matin de 8 à 9.
Bien, bonjour à tous et tous et bienvenue dans Le pire reste à venir, la matinale du 99.1, du 102.4 et du 95.9 FM.
Du bon plan, de la bonne humeur, des rendez-vous, des invités qui font l'actualité, mais aussi des chroniqueurs au grand cœur. Le pire reste à venir, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Principe Actif, HDR, même combat.
C'est exactement ça. Et là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Doc Mansour et Damien.
Doc Mansour, bonjour.
Bonsoir.
Rebonjour. Rebonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez de pacifique et sympathique pour nos oreilles en ce jeudi soir, Doc ?
Les Z, on va les appeler comme ça, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc en fait, là on est en Algérie, on est dans les années 30. Donc un couple de juifs algériens, Clairette Atleni et Raymond Zemmour. Donc Z pour Zemmour. Donc en fait, ils occupent une fonction dans les synagogues. Donc en fait, ils ont plusieurs fils d'ailleurs. Roland, qui est né en 1925. Théodore, qu'on appellera Dédé vulgairement, en 27. William dit Zawi. Lui, il sera né en 1930, Gilbert en 1935, Edgar en 1937, et quatre filles qui sont respectivement nées en 1938 jusqu'à 1944. Donc ça fait quand même beaucoup de bouches à nourrir pour une famille plutôt pauvre dans cette région où en fait ils vivent dans la cité Lévis qui est aujourd'hui Tlidjen. Ça a changé nom depuis 1961. Et en fait, ils s'en sortent quand même parce que la communauté est quand même soudée à l'époque, il y a de l'entraide et les familles entre elles cèdent. Et en fait, les Zemmour, ce sont non seulement cette famille-là, mais plusieurs familles qui sont cousins, proches ou éloignés. Et en fait, le problème, c'est que même si les enfants ont une éducation très religieuse, de par leur père et sa fonction, bah, il s'avère que les cinq frères, en fait, sont très turbulents. Et ils se font remarquer justement à cause de ça, parce qu'en fait, ils bougent beaucoup. Ils font déjà des petites bagarres, des hurlements à droite à gauche. Et en fait, dans la bourgade, on les connaît pour ça. Ils sont un peu brutaux, et ils se font très remarquer, et c'est surtout des grandes gueules, entre guillemets. Donc, en 1947, Roland, qui est le premier des frères à partir, en fait, et à travailler comme mécano sur Paris, mais il va vite tourner, parce qu'en fait, il voit bien que mécano, c'est pas très lucratif, et en plus, c'est fatigant.
Ouais.
Donc lui, il cherche une activité plus lucrative, moins fatigante et moins contraignante. Mais beaucoup plus dangereuse au final. Donc en 1947, il est abattu, justement.
Ah, d'accord, ok.
Plusieurs coups de feu rue Blondel dans Paris, par un concurrent mécontent parce qu'en fait il s'était mis dans les petits larcins.
D'accord.
Et en fait il prenait un peu de place et sa carrière a fait long feu.
Il aurait peut-être mieux fait de rester dans la mécanique.
Sûrement. Et en fait en 1945, je vais juste revenir avant, juste après le fameux massacre de Sétif, le 8 mai 45, hein, je précise, où des Algériens un peu nationalistes voulaient déjà réclamer leur indépendance et les forces françaises ont réagi, malencontreusement.
Oui.
Et en fait, il y a eu une répression juste derrière et en fait, la famille Zemmour commence à voir que bon, ça commence à chauffer. En 1945, c'est même pas le déclenchement de la guerre. Bon, ils décident en fait de quitter un par un quasiment l'Algérie, donc Théodore. En 1955, lui âgé de 28 ans, auquel succède Edgar, lui qui a 19 ans, qui lui va être ajusteur-tourneur pendant toute une période de sa vie, et après les parents qui arrivent tout doucement. Alors leurs fils, eux, se lancent presque immédiatement dans des activités peu recommandables.
Ils n'ont pas retenu la leçon du grand frère.
Non. Et en fait, ils vont commencer petits, et ils sont encore, en fait, on va dire, des petits gagne-pains. Mais en fait, la plus grande spécialité qu'ils vont avoir, c'est alors que ce qu'on appelle le bidonnage, nombre d'ailleurs de futurs banditismes vont le faire, c'est en fait un petit business de petite arnaque.
D'accord.
Voilà, on monte des petites arnaques, alors on gagne des petits sous à droite à gauche, sur petites transactions ou sur du petit racket pour l'instant. Et en fait, c'est le lancement économique en fait de leur petite activité, de leur petite structure. Il faut savoir qu'à l'époque, le milieu du banditisme français est divisé en plusieurs blocs. Il y a ce qu'on va appeler un peu plus tard le gang des Lyonnais.
J'imagine que c'est à Lyon.
Voilà. Donc, à Marseille, c'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'à Marseille, non seulement il y en a plusieurs, parce qu'il y a quand même les Corses qui sont très bien installés, le milieu lui-même marseillais. Et dans le milieu marseillais, il y a ce qu'on appellera un peu plus tard le milieu des pieds noirs, les Maghrébins qui viennent juste d'arriver, et les Marseillais français de, entre guillemets, de souche.
Oui, ça ressemble quasiment GTA, cette histoire.
Là, on y est presque. Donc, le milieu bordelais est beaucoup plus discret, beaucoup plus feutré. Et le milieu parisien, où alors là, il y a tout un amalgame, en fait. C'est quasiment des familles, en fait, à Paris.
Ok.
Qui gèrent ça.
Famille style New York ou famille...
Alors, style vraiment milieu sicilien.
D'accord.
Ouais. C'est vraiment des milieux familiaux très liés entre eux. Frères, entre le père, le frère, les enfants, les cousins.
Mais c'est pas des Siciliens.
C'est pas des Siciliens.
D'accord.
C'est pas un modèle... Le modèle sicilien est un autre modèle qu'on avait déjà parlé. Mais en fait... Ce qui arrive, c'est qu'en fait, pour commencer leur structure, ils font même de la vente à domicile, entre guillemets. En fait, c'est pas de la vente à domicile, c'est de la protection, en disant, ouais. Chaque commerçant, si tu veux une petite protection, il faut nous donner tant.
Ouais. Achète-nous ça et en échange, il n'y aura pas de soucis, quoi.
Ouais, et en fait, à l'époque, il faut savoir que les grandes surfaces n'ont pas empoité leur bout de leur nez. Hein. Elles ne sont pas encore bien installées. Et en fait, eux, ils commencent à bien profiter de tout ça. Ils commencent à se faire une réputation. C'est comme ça qu'on commence à les repérer. Et dans cette optique, il y a justement Théodore. En fait, là, pour l'instant, ils arrivent à trois. Et en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer des sociétés écrans ou des commerces écrans. Donc, ils collaborent avec leurs frères. Et en fait, ils vont lâcher leur petite carrière chacun entre eux, parce qu'ils faisaient quand même travailleurs manuels à côté pour justifier certains salaires. Et en fait, là, ils embrassent vraiment ce qu'on va appeler la carrière pour la police de malfrats. Ouais, plus convenablement le milieu du grand banditisme.
En fait, le racket et les arnaques commencent à leur apporter trop pour pouvoir juste le blanchir tranquillement. Donc il faut commencer à grossir. Quoi.
Oui, et en fait, ils vont acheter un restaurant rue de Travis, dans le 9e arrondissement.
C'est finalement très classique de blanchir son argent
par le restauration,
restaurant.
Oui. Chez Bail, ça s'appelle. Bon, en fait, ils vont laver en fait, tous les chiffres d'affaires déclarés de sa société, vu qu'il n'y avait pas grand monde et que c'était ouvert quasiment qu'à des initiés. Bon, en fait, ça commence à bien rapporter. Et en fait, ils mettent en fait, enfin, grâce à leur conquête entre guillemets féminine, ils commencent à mettre un pied dans ce qui est interdit en France, le proxénétisme, mais à petite échelle. Et en fait, là, comme ils voient qu'ils peuvent faire de l'argent là-dessus, mais il faut qu'ils structurent. Parce que les filles dans la rue, c'est un peu trop voyant. Donc il va falloir faire ça autrement. Les maisons closes, à l'époque, ça existait encore, sont déjà régies par d'autres familles, et eux, il faut qu'ils créent leur propre logique. Et en fait, ils vont la créer en louant des chambres d'hôtel permanentes.
Ça aussi, ça reste assez classique, finalement.
Bah, disons que le tenancier d'hôtel y retrouve son compte, eux, ils y trouvent le compte, et les filles, apparemment, comme elles avaient une chambre d'hôtel tout le temps à louer, ça leur crée une protection.
Ouais.
Donc tout le monde à peu près y trouve son compte. Mais je dirais que les filles, c'est celles qui perdent le plus dans l'histoire.
Mais les autres familles, les tenanciers de bordel de plus grande envergure, ils y voient pas
une
de
concurrence.
Long, un peu
ouais. Ouais, pour l'instant, c'est une petite concurrence, c'est pas une grosse concurrence. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils ont ce qu'on va appeler vulgairement des gagneuses.
Ouais.
Voilà. Et en fait, eux, ils sont... Là, c'est là où l'autre frère, Gilbert, lui, va s'implanter à Grenoble. En fait, ils sont un peu dispatchés. Donc... William, lui, va propager plus surtout des filles sur Paris et une en particulier à Nevers. Mais le monde des macros est, comme on le sait, un milieu de requins et les jalousies et les coups de foudre risquent de tomber s'ils ne se font pas assez discrets. Et en fait, Edgar, l'un des frères, lui, va être blessé de 4 balles de pistolet en 61 sur les Champs-Élysées et Gilbert inquiété par la justice en 1963.
Ouais, je ne sais pas ce qui est préférable.
Bah, le problème, c'est que Gilbert aurait été dénoncé par un concurrent.
Ouais, bon, c'est pas surprenant.
Voilà, c'est un milieu un peu... Et en fait, il va même... Non seulement il va être dénoncé, mais en fait, c'est là où c'est particulier, c'est qu'il va être poursuivi, non pas pour proxénétisme, alors que tout le monde le savait, mais pour une tentative de meurtre de cette fameuse, entre guillemets, celui qui lui soupçonne de l'avoir balancé, un Yougoslave qui l'aurait dénoncé, Sivak Zakov.
Un autre Mac.
C'est ce qui apparaît dans les rapports de police.
D'accord.
Donc Théodore, lui, sera arrêté armé la même année, au même titre qu'Edgar en 59-60, parce que le port d'armes est illégal.
Bien sûr.
Et c'est les premières années un peu timides, en fait, des condamnations pour escroquerie, vol ou proxénétisme. Et en fait, à pleuve sur les quatre frères, mais ils s'en tirent à chaque fois plus ou moins.
Ils sont un CV de gangster, un peu.
Oui, voilà, ils commencent. C'est le petit balbutiement. Donc Edgar, lui, trois fois, tandis que William passe devant huit tribunaux à travers la France... On voit également que les... Et en fait, ils vont même faire... Ah, c'est plus, en fait, on va dire, Edgar qui est beaucoup plus malin que les autres, il semblerait-il. On le voit également dans les affaires des couleurs d'affiches.
Donc, les affaires des couleurs d'affiches.
Il raquettait un peu les couleurs d'affiches pour les élections.
D'accord.
En fait,
okay.
Il commence à mouiller un peu avec le milieu politique. Hein.
Ouais.
Parce qu'ils vont servir aussi d'autres choses.
Ça ressemble presque à un film de Scorsese, là, ce que vous nous racontez là, Doc.
Oui. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il va contribuer non seulement en fait, à soudoyer ou à faire des menaces contre les couleurs d'affiche d'un parti opposé. Donc là, il soutient les gaullistes.
Ouais.
Avec le SAC, le Service d'Action Civique.
Fameux, oui.
Voilà. Donc certes, on connaît des grands noms. D'ailleurs, il y en a un qui a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui devrait, en fait, avec les lieutenants, gérer tout ça. Et en fait, Charles de Gaulle est plus ou moins au courant que le milieu est mouillé avec le SAC, mais tant que ça ne fait pas de vagues, on dirait trop rien. Et en fait, c'est eux qui vont servir aussi de barbouze anti-OAS.
Ok, donc là, on entre totalement dans la politique, là.
Ah oui, oui, oui. Mais en fait, il y a même Pierre Lemarchand qui aurait été qui est un avocat, qui est le recruteur officieux de ces barbouzes. C'est comme ça qu'on va les appeler d'ailleurs.
D'accord, ça commence à tremper dans des grosses histoires politico-mafieuses.
Oui, en même temps, ils ont affaire avec d'autres familles, mais vous verrez après. Et en fait, pendant toutes ces années-là, il y a le problème, c'est que le SAC contribue aussi non seulement à consolider la base politique, entre guillemets, d'un service de sécurité proche de certains politiques, dont le général de Gaulle et aussi Malraux.
D'accord.
Malraux a été plus ou moins protégé par un des frères Zemmour.
eh bien on passe le petit bonjour à nos amis.
Est-ce qu'il est au courant ou pas, ça c'est autre chose, parce qu'à un moment on sait pas qui fait quoi, qui engage qui, et après quand vous avez des connaissances de connaissances, vous savez forcément pas le CV de tout le monde.
Ouais, bah c'est peut-être même un peu le principe aussi, non? Un peu comme dans la mafia sicilienne, tu connais pas tout le monde, tu connais juste ton supérieur direct, quoi.
Oui, tout à fait. Et en fait, alors, commence aussi des vengeances pendant ce temps-là. Hein. Un certain Roland, lui, en 63, qui a été assassiné, proxénète, sexagénaire, qui était connu du milieu, bah, en fait, il est retrouvé mort sur une route du côté de Nice. Mais en fait, les Z, comme on va les surnommer, bah, en fait, non seulement ils font vraiment parler d'eux, mais en fait, ils se font repérer par d'autres familles. Et en fait, ils vont s'implanter au Faubourg Montmartre, qui en fait, pour être clair, le fief de la communauté juive pied-noir et surtout de la mafia.
Ouais, d'accord.
Qui est en train de s'implanter. Parce qu'avant, c'était la communauté juive française pure et dure. Et là, il y a une autre communauté qui s'instaure et qui commence à parasiter en fait les affaires de ceux qui sont déjà sur place.
Ça sent pas bon, ça.
Bah, le problème, c'est qu'il commence à devenir une figure incontournable parce que les deux petits frères sont les plus brutaux et les plus violents.
Ouais.
Donc on commence aussi à avoir peur. Fin. Et en fait, mais avec brio, en fait, ils arrivent plus ou moins à tempérer les ardeurs des uns et des autres. Et ce rapatriement en fait, qui est fait en France, non seulement ça parasite le business, mais ça parasite même les commerçants qui cherchent d'autres protections. Et en fait, c'est au cœur du 9e arrondissement. Et en fait, l'homme qui domine à l'époque, c'est Sion Atlan.
Ok.
Donc la famille Atlan, c'est eux qui dirigent. Donc lui, il accompagne son frère René et quelques cousins qui eux-mêmes viennent d'Algérie, de Patna. Et entre les bonhommes, officiellement, il n'y a rien, les carrières se passent plus ou moins bien. Ils ont parasité en fait le marché des cafetiers, des bouchers, des grossistes de volailles. Ça, c'est on va dire la façade officielle et convenable. En fait, derrière, ça cache toutes des transactions... plus ou moins malveillante.
C'est à la fois une couverture et une blanchisserie, quoi.
Voilà, c'est une blanchisserie, de toute façon. Donc, surtout du proxénétisme, ils opulent aussi leurs aînés dans des affaires de magouilles, aussi bien, plus ou moins, avec certains policiers qui étaient un peu véreux, et des blanchiments d'argent pour d'autres. Parce qu'il faut bien que l'argent circule.
La sous-traitance financière.
Et en fait, alors, ce qui est marrant, c'est que Sion Atlan est appelé aussi juge de paix.
Ah oui, d'accord, pourquoi pas.
C'est lui qui, en fait, un peu comme la mafia à New York, il y avait quelqu'un qui pouvait être le médiateur et régler les problèmes entre les familles ou entre certains concurrents. Mais avec son équipe, ils se font une spécialité, les Atlans, la protection des commerçants du sentier et du faubourg. Tout en donnant évidemment des gagne-pains à certains.
Oh là, et la protection, c'est un gentil mot pour le racket, en fait.
Oui, bah... Si le boucher ou et aussi sur le vin, ils se sont spécialisés aussi sur la circulation du vin. Donc si vous ne fournissez pas chez tel fournisseur, je pense pas que vous puissiez vous fournir ailleurs. Vous pouvez pas se fournir ailleurs déjà, c'était un peu compliqué vu qu'il parasitait le marché et en plus il fallait payer sa commission à la commande et à la revente.
D'accord, en gros il s'arrangeait comme il fallait, quoi.
Voilà. Donc l'autre redoublable fratrie du quartier, c'est celle des Perret, dit les demi-juifs. Bon, c'était vulgaire, c'était entre eux. Hein. Eux, ils sont trois, Marius, Clément et Gilbert, avec un arrière-plan. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est celle, parce que c'est une femme, qui est en fait la personne la plus forte et qui gère plus ou moins, c'est Léonie Benihim, dit Mère Léo.
D'accord.
Et là, cette matrone-là, en fait, c'est vraiment une matrone. Hein. C'est elle qui va gérer tout le business de la prostitution pour cette famille.
C'est classique comme ça que ce soit des femmes qui gèrent la prostitution presque comme sous-traitantes de réseaux mafieux.
Oui, et en fait eux ils se sont partagés un peu justement eux ils protègent non pas les commerçants mais les fournisseurs de vin et de spiritueux.
Ok.
Voilà. Et en fait ils fréquentaient la bande de ce qu'on appelait les trois canards, comme ça. Notamment ils tenaient les bars rue des Martyrs, le Romance rue Pigalle, en fait plusieurs établissements à droite à gauche qui servaient bien sûr de couverture et de lessiveuse. Donc là, en fait, on va dire que le décor est un peu planté. Et dans tout cet univers-là, les Zemmour se sentent comme des poissons totalement dans l'eau. En fait, on va dire que c'est la première période de la moitié des... Là, on commence à arriver dans les années 60. Toute cette première période, c'est la grande période du banditisme français.
D'accord.
Ce qu'on va appeler un peu plus tard la French Connection, parce qu'ils vont en faire partie plus ou moins quand les Siciliens et d'autres auront besoin.
On va s'étendre à l'international.
Ah bah, de toute façon, le problème, c'est qu'avec ce milieu, on ne peut pas être que rester national ou local. Hein.
C'est les capitalistes. Affaires, hein. La division internationale du travail, ouais. Mesdames et messieurs.
Et en fait, c'est cette période-là où, justement, les Zemmour jouent à armes égales avec les Atlans et les Perret.
Bon, là, il commence à faire de l'ombre à de la grande famille, du coup.
Oui, et puis surtout, il y a aussi des clandestins qui sont dans le quartier, dont se sert d'eux comme passeurs et autres.
Oui, ça aussi, donc, c'est malheureusement
très classique. On va dire que là, pour aujourd'hui, j'ai planté plus ou moins le gros décor.
Ouais.
Et vous verrez la période glorieuse et le début de la décadence et de ce qui va se passer entre ces familles et entre eux en plus.
Eh ben, on a hâte, hein, Dr Scorsese. On a hâte d'entendre ça. Ousmane, t'as hâte ?
Oh oui, j'étais tout oui et je le suis et je le serai encore jeudi prochain, bien sûr. Donc oui, vous nous avez proposé un doc, donc Le Grand Pardon. Donc est-ce que c'est... Je vous propose de découvrir ça d'abord et puis bien sûr, doc, si vous voulez nous expliquer un peu ça. Ce doc.
Bah, moi, je trouve que cette musique, ça évoque pas mal du Scorsese un peu. Enfin, ouais. Du Scorsese, pardon, du Ennio Morricone. Ouais. Je mélange dans les noms à consonance italienne.
Donc, alors, pour ceux qui savent, c'est pour ceux qui connaissent, parce que c'est un film qui est sorti en 1982, Le Grand Pardon, réalisé par Arcadie. Et en fait, ce film raconte l'histoire de ce qui va se passer avec les Atlans et les Zemmour et autres. En fait, c'est basé sur des faits réels. Et la musique, c'est Serge Franklin, en fait.
Mais comme les faits réels, je trouve qu'elle évoque un peu des films de mafieux américains. On n'aurait pas été surpris d'entendre ça, comme je disais, dans un Scorsese.
Non,
ou dans un...
parce qu'en fait, c'est la même ambiance.
Ouais, on est un peu dans le même type d'organisation, quoi.
Voilà, qui est en train de se structurer en France d'une façon autre qu'aux États-Unis, parce que c'est pas du tout la même organisation, pas les mêmes origines, pas les mêmes milieux.
Ok, eh ben, il faut pas manquer de se regarder ça, Ousmane. On se regarde ça de ces quatre ?
Pourquoi pas ? Et puis, ouais, on va regarder ça ce week-end, comme ça, jeudi prochain, on pourra.
Très bien.
On va pouvoir s'étaler dessus.
Donc, c'est avec Roger Hanna, Jean Benguigui. Puis, alors, pour l'anecdote, Serge Gainsbourg joue son propre rôle dans le film.
Ah oui ? Voilà. Eh ben, c'est un peu le. J'allais faire une référence, je ne sais pas si vous l'aurez, chers amis auditeurs, mais c'est un peu le Johnny Fontaine slash Sinatra, un peu de.
Voilà.
De film. D'accord. Bon, bah, on en parlera également aux amis du mardi, nos chers amis chroniqueurs cinéma, que vous retrouvez tous les mardis. Moi, je crois qu'on a terminé, Doc.
Oui.
Eh ben, on va te rendre l'antenne, mon cher Ousmane.
En tout cas, merci, c'était plaisant, bien sûr. Et juste après ça, bien sûr, nous partons en musique.
Le mix de toutes les cultures, 99.1. We'll be right back.
17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
C'est exactement ça, bien sûr. Notre invité, M. Arnaud Dahl, est là. Bien sûr, il était à l'heure depuis 17h30. Il est là. Donc, il a partagé toutes ses chroniques, tout ça avec nous ici. Donc, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors, pour les auditeurs qui vous découvrent ou qui vous redécouvrent sur les ondes de la radio HDR, bien sûr, présentez-vous, présentez toutes les structures pour vous présenter.
Toutes les structures, il n'y en a pas tant que ça.
Bien sûr.
Donc, je m'appelle Arnaud Dahl, donc je suis directeur d'un GES, Groupement d'économie solidaire, dans lequel il y a deux associations. Il y a l'association donc, Intermed Emploi, qui est implantée sur le quartier des Hauts de Rouen depuis 1987, donc on a presque 32 ans d'existence sur le quartier. Pas moi, hein, mais on a aussi donc, une autre association qui s'appelle Les Ateliers des Hauts, qui a développé un beau projet depuis maintenant la fin de 2017, qui s'appelle Léo à table, le restaurant Léo à table. Voilà, donc derrière Intermed et derrière Léo, il y a beaucoup d'activités différentes. J'espère qu'on aura le temps de les aborder ce soir.
Bien sûr, on a le temps pour aborder tout ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, Intermed Emploi, qu'est-ce que c'est quoi qu'on...
Alors aujourd'hui, Intermed Emploi, c'est de l'emploi déjà, puisque sur l'association Intermed Emploi, c'est plus de 80 équivalents temps plein. Donc 80 équivalents temps plein, ça fait peut-être, je sais pas moi, comme c'est des emplois d'insertion, ça doit faire à peu près 100, 150, 200 salariés chaque année. Hein, des personnes qui viennent s'inscrire à Intermed, qui peuvent trouver donc dans l'association un mélange entre de l'accompagnement, des missions de travail salariés et des formations. Alors ça prend deux formes, il y a l'association historique, l'association qu'on appelle intermédiaire, qui intervient beaucoup avec les bailleurs sociaux, beaucoup aussi avec la ville de Rouen, et on a aussi donc un chantier d'insertion qui s'occupe beaucoup d'entretien d'espaces verts, d'entretien de voiries sur les Hauts de Rouen, mais pas que, aussi dans certains quartiers de Rouen.
D'accord, il y a Léo à table aussi, donc il y a un restaurant où voilà, tout le gratin des habitants et aussi des acteurs sociaux. Donc voilà, se rencontre là-bas le midi, c'est un lieu de rencontre, c'est pas seulement un restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus?
Vous avez parlé de gratin, le premier gratin, c'est les gratins que propose le cuisinier. Donc dans Léo à table, donc, plus sérieusement, c'est un restaurant d'insertion, c'est un restaurant associatif hein, donc, sur le quartier. Donc il y a aujourd'hui, donc, je vous disais, donc depuis fin 2017. Aujourd'hui, donc, le restaurant, donc, il y a en direction opérationnelle Marc Échevin, qui est par ailleurs et travaille aussi donc, pour la protection judiciaire de la jeunesse. On a un partenariat avec la PJJ. Mmh. Et donc, on a deux cadres, Loïc Loudière, qui est un peu le responsable de cuisine, et Salma Belagouzi, qui est responsable de salle, chef de salle. Et donc, derrière ces trois personnes, il y a sept salariés en contrat à durée déterminée d'insertion de au plus 24 mois, qui apprennent le métier et qui, donc, jour après jour, vous proposent aux habitants des Hauts-de-Rouen, mais pas que, hein, puisque dans le restaurant, il y a, 30% peut-être d'habitants des Hauts-de-Rouen qui viennent se restaurer, mais il y a 70% de personnes qui viennent de l'extérieur, alors certainement beaucoup de salariés, qui travaillent sur les Hauts-de-Rouen, mais pas que non plus. Il y a des gens qui viennent spécialement pour ce restaurant parce qu'aujourd'hui, donc, il est reconnu comme étant un restaurant de qualité avec des produits bio, circuit court, mais bien cuisinés.
C'est voilà. Je ne sais pas si, M. Damien, vous avez quelques interrogations.
Moi, j'ai une petite question qui me vient comme ça. Vous parlez de contrat d'insertion. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer plus en profondeur ce que c'est?
Alors, les contrats d'insertion, en fait, donc... Nous, on fait partie de ce qu'on appelle le secteur de l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire qu'on pense que les missions de travail salarié, ou en tous les cas le travail, est une condition d'abord indispensable pour chacun, et que parfois, donc, pour des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi, il y a une période de transition nécessaire pendant laquelle la personne donc, aura à la fois du travail salarié, mais pas que, aussi de la formation, de l'accompagnement. Et c'est le mix de ces trois-là, hein, qui va permettre à la personne donc, de retourner dans un emploi durable. Donc c'est un emploi qu'on pourrait qualifier de transition. Hein, en transition D'accord. entre un moment, une période de chômage et la recherche d'un emploi durable.
Juste, je me permets d'intervenir, M. Damien. Vous proposez de l'insertion sociale par l'emploi et tout ça. Vous faites aussi de la pédagogie, par exemple, il y a le jardin ou le potager partagé, quelque chose en face du restaurant. Et c'est pas vous ?
Alors, ça fait partie un petit peu de la diversification de nos activités. Aujourd'hui, on a des activités un peu complémentaires de celles de classiques ou historiques de l'association. Uh-huh. Je vous en citer deux. Donc, la première activité, donc, c'est une activité d'apiculture en milieu urbain. Aujourd'hui, à Intermed, on a, je crois, 80 ruches. Donc, 80 ruches qui... Alors, elles ne sont pas toutes sur les Hauts-de-Rouen. Hein. Il y en a, sur les Hauts-de-Rouen, il y en a une dizaine ou une quinzaine. Les autres ruches sont sur la métropole et on est sur un pari. Le pari qu'aujourd'hui, on peut créer de l'emploi dans l'apiculture, en mixant, une fois de plus, le mix, c'est très important aujourd'hui.
Vous êtes pas trompé, vous êtes sur le mix voilà, d'apiculture. Oui,
j'ai bien compris ça. Donc, en mixant à la fois, donc, pour l'apiculture, de la production de miel, donc on produit un miel qui est d'excellente qualité au passage, un miel urbain, mais aussi en travaillant sur des animations autour de l'apiculture. Donc, par exemple, on travaille en animation avec les élèves du Collège Braque, on travaille aussi avec le lycée Grieux. On a aussi des animations régulièrement donc, au château de Martinville. On a des animations aussi donc, sur le grand port du Havre. Donc régulièrement, donc, on fait des animations donc, autour de l'apiculture. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, vous en parliez, c'est le jardin partagé. Donc jardin partagé, donc là, c'est un démarrage, hein, puisque c'est l'ex-friche qui se situait donc entre le restaurant Léo et le collège Braque. Et sur cette friche, aujourd'hui, on va faire pousser, avec les collégiens, mais pas que, aussi avec les personnes du chantier d'insertion, les salariés d'Intermed qui sont au chantier d'insertion, on va faire pousser donc, soit des fleurs comestibles, soit des plantes aromatiques. Et les fleurs comestibles ou plantes aromatiques pourront servir soit au restaurant Léo à table, soit donc pour le restaurant du Collège Braque.
Mais vous faites beaucoup pour le quartier et pas seulement, on l'entend. Comment ça vous est venu cette envie de vous lancer dans l'action, d'aller concrètement aider les gens et aider le quartier ?
Oh bah ça, c'est toute l'histoire d'Intermed. Hein. Alors Intermed, c'est une association qui est née, donc je vous disais, donc dans les années 85-87, c'est 87 exactement. Et à l'époque, c'est l'époque où on a eu, notamment sur ce quartier, un chômage mais extrêmement massif et brutal. Et il a fallu trouver donc des réponses à ce chômage massif et brutal. Nous, c'est une toute petite partie de réponse, hein, mais c'est une partie de réponse en créant une première association donc, qui s'est appelée Intermed Emploi et qui a proposer donc des missions de travail salarié à des personnes au chômage, mais des missions de travail qui ne sont pas pérennes parce que à l'époque on était persuadé que le chômage était en fait un moment dans l'histoire, c'est-à-dire que ça n'allait pas perdurer, que ça allait pas durer longtemps, hein. Et en fait on s'est aperçu que ce chômage est non seulement était massif mais a été très structurel, très s'est inscrit dans le temps.
Ça a été difficile de mener ce combat, de monter, de donner naissance à tous ces projets, toutes ces choses concrètes finalement.
Alors c'est ce qui est compliqué, mais je pense que dans toutes les associations, on connaît ce genre de problème, hein, que ce soit par exemple vous à la radio HDR. Je pense qu'aujourd'hui, les associations, quand elles montent un projet, elles sont obligées de faire de la recherche de financement. C'est compliqué, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'investissement des équipes, d'investissement de toute la structure, de toutes les structures pour trouver ces financements. Et après, ce qui est encore plus difficile, c'est de faire vivre ces financements dans le temps. Hein, c'est-à-dire, quelquefois, c'est facile d'obtenir un premier financement, d'investissement pour, tenez, si on transposait la radio chez vous, peut-être du matériel. Après, par contre, c'est beaucoup plus difficile de pérenniser dans le temps un emploi, de pérenniser une activité donc sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans.
Mais justement, là, Léo à table, c'est Perrin. Maintenant, c'est une structure qui est là, qui est installée, que tout le monde connaît, quasiment même de Rouen, quand on en parle, les gens le savent. Et en même temps, avec Léo à table, vous faites aussi vivre le quartier, puisqu'il y a des événements. Vous me parliez tout à l'heure de Big Bad Bill qui se met à table à Léo à table, c'est
alors,
ça ?
Alors, Big Bad Bill, oui, effectivement, c'est une. Alors, peut-être que le sujet là, c'est de dire, justement, de souhaiter que. Au reste. La métropole, les gens, les habitants de la métropole ne nous oublient pas. Et donc, on a une série d'actions, on a deux actions dans Léo pour éviter qu'on nous oublie. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un quartier dit QPV, que dans ce quartier dit QPV, un des gros problèmes, c'est l'attractivité économique du territoire. Il n'y a pas grand-chose qui s'y passe au niveau économique. Donc, le restaurant, c'est un élément important dans la vie économique donc du quartier, pour qu'on ne nous oublie pas, c'est un quartier enclavé. Hein, quand vous regardez une vue, je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo, donc quand vous regardez vue d'avion, à travers une photo bien sûr, quand vous regardez donc, sur une photo Léo de Rouen, en fait on voit des immeubles entourés d'une ceinture verte. C'est vraiment un quartier qui est dit enclavé. Et donc on a très peur que ce restaurant qui marche bien, vous l'avez dit aujourd'hui, qu'on puisse nous oublier. Et donc pour éviter qu'on nous oublie, on a mis en place deux actions. La première, c'est des soirées tous les jeudis, souvent c'est le dernier jeudi du mois. Là, ça va se passer le 23 mai au restaurant Léo à table. Donc des soirées animées avec une animation musicale. Donc là, cette fois-ci, donc ça se passe donc chez Léo, bien sûr, à partir de 19h30. Ça sera un groupe qui s'appelle Big Bad Bill, qui est un groupe assez connu donc, dans la région, qui va venir jouer du folk. C'est folk, c'est rock, c'est blues, c'est un mélange de tout ça. Et en accompagnement de cette soirée, il y a bien sûr un repas. Donc c'est une entrée payante, hein, évidemment, avec à la fois la musique et la restauration.
Je regarde Ousmane parce que je regarde l'heure, chers amis. Moi qui étais à sa place pendant un petit moment, maintenant je peux dire que je suis un petit peu un vétéran, je constate qu'on a peut-être débordé un petit peu de notre créneau, Ousmane.
Non, pas du tout, on est dans le temps, on peut y aller. Monsieur Arnaud, je pense qu'il a encore des choses à dire à nos auditeurs et aussi...
De toute façon, on a plein de questions à lui poser encore, donc ça, à toi de me dire, Ousmane, est-ce qu'on y va ?
On y va.
Allez, on y va. Question comme ça, moi qui suis un gourmand plus qu'un gourmet, pourquoi un restaurant quelle est la naissance de ce projet Léo à table qui aujourd'hui paraît évident, mais en même temps qui n'est pas si simple à mettre en place. Surtout, il faut y penser. Pourquoi
alors,
un restaurant?
Là, par contre, la réponse est facile. Avant Léo, il y a eu un premier essai d'un restaurateur privé pendant quelques années, tenu ce restaurant, qui s'appelait Autre Chose, qui a fait des choses très bien hein, donc en matière de restauration, mais qui n'a pas tenu économiquement. Et nous, quand ce restaurant a disparu, on s'est dit, mais ça n'est pas possible, il y a un besoin sur les Hauts-de-Rouen, il y a eu les habitants, il y a les salariés du quartier, il y a une ville, un quartier important dans une ville, peut-être, je ne sais pas moi, 10 000 habitants, et c'est impossible qu'on laisse tomber donc, ce restaurant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Intermed a dit, on monte un projet, on reprend le restaurant et on en fait donc une entreprise d'insertion et un restaurant associatif.
Vous pensez que le côté solidaire de ce restaurant, le côté insertion de ce restaurant, il participe aussi à son succès, au-delà du fait que la nourriture il soit très bonne. Chers auditeurs, tout le monde ici pourra en témoigner.
Merci.
Merci à vous.
J'en suis certain. C'est-à-dire que on a un ensemble d'éléments qui, à mon avis, favorisent la réussite de ce restaurant. Premier élément, vous l'avez dit, donc le côté restaurant d'insertion. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui viennent parce que c'est un restaurant d'insertion, mais si c'était pas bon, ils ne reviendraient pas. Donc c'est un restaurant d'insertion. Et avec une cuisine de qualité. Deuxième élément, on a aussi le facteur circuit court, beaucoup de produits en circuit court, beaucoup de produits en bio. Et je pense que c'est important aussi dans un quartier QPV comme celui-ci, d'avoir, dans le quartier des Hauts-de-Rouen, d'avoir une, une restauration de qualité avec des produits de qualité. Hein, tiens, le miel, par exemple, le miel d'Intermed, il est aussi en vente dans le restaurant.
Et le jardin partagé aussi, vous nous l'avez dit, c'est les Ouattables aussi.
Pour les Ouattables et le Collège Braque.
Ouais. Hein,
j'espère que les plantes aromatiques, je ne sais pas, par exemple, on a, là, cette semaine, on a planté des choses assez classiques. Hein, on a planté de la sauge, on a planté de la menthe, on a planté du thym, des choses aujourd'hui, des choses un peu moins classiques, je ne vous citerai pas les noms. Et ces plantes aromatiques vont pouvoir agrémenter donc soit les assiettes donc des collégiens, soit les assiettes des personnes qui viennent au restaurant, les Ouattables.
Mais encore une fois, ce qui m'épate, c'est cette détermination qui vous a fallu quand même. Vous étiez avec d'autres personnes quand vous avez monté tout ça, ou vous êtes un peu un loup solitaire qui s'est fait tout seul, comme un Donald Trump de Rouen? Voilà.
Non. Alors là, merci. La comparaison, vous la gardez pour vous, si c'est possible. Je sais pas. Bon, je vais la prendre du bon côté, mais vous la gardez quand même pour vous.
Ah, elle était complètement sarcastique, rassurez-vous.
J'en suis sûr. Je n'en doute pas. Non, c'est souvent un travail d'équipe, tout ça. C'est un travail d'équipe. C'est aussi la possibilité pour... moi, je pense que dans son travail, on le fait d'autant mieux qu'on se réalise ou qu'on arrive à se projeter dans son travail, qu'on arrive à mettre en parallèle son travail et ses idées. Et je pense que toute notre équipe... que ça soit Intermed ou que ça soit Léo, on est dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on a c'est notre travail, donc on est salarié d'une association, mais en même temps, ce que l'on fait est bien en accord avec nos valeurs et nos idées.
Vous pensez, vous, que cette solidarité là, dont vous êtes un peu un des piliers dans le coin, que cette solidarité, elle est essentielle, je vais même aller plus loin, qu'elle fait partie de ce que sont les Hauts-de-Rouen?
Je pense qu'il y a un tissu associatif qui était extrêmement riche, qui est quand même un peu mis à mal depuis quelques temps. Hein. Donc on voit bien qu'il y a eu des associations qui étaient elles aussi historiques sur les Hauts-de-Rouen qui ont disparu. Je pense à l'APMAR, par exemple, hein, qui pourtant avait une utilité sociale très très forte. Hein. Il y en a d'autres qui ont été en grande difficulté, Mère et Campagne par exemple. Je pense qu'on vit des moments quand même difficiles pour les associations. Hein. Donc, bien sûr, c'est essentiel dans un quartier comme celui-ci d'avoir un tissu associatif fort, mais il est fragile.
La police de sécurité du quotidien, tant pis, j'y retourne, je vais aller follement politique. Est-ce que vous pensez que ça va être utile à ce quartier, ou est-ce que vous pensez que ce ne sera qu'une rustine qui ne remplacera pas les dommages qui ont été faits au tissu associatif du QPV?
Ah bah, ça ne remplace pas, ça c'est clair. C'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Cela étant, il vaut peut-être mieux une police dite de proximité et du quotidien que des personnes qui roulent en voiture dans le quartier.
Ouais, allez, pour... Ah, je vois qu'Ousmane lève le doigt. Ousmane, je te rends la parole, cher camarade.
Non, parce que le temps file, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais je voulais juste vous remercier, et je me fais penser, en vous écoutant ici, ce qui me fait cette phrase qui me vient aussi, qui est d'Albert Mendy. Je ne sais pas qui il est, Albert Mendy, mais sa phrase, elle est devant la radio. Qui dit: sur les Hauts-de-Rouen, il n'y a pas de monument. Les seuls monuments, c'est les habitants ou c'est les hommes qui font vivre ici ce territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que vous faites partie de ces monuments ici. Parce que vous connaissez, vous avez vu des générations de d'Hauts-de-Rouen, et aussi vous avez mis votre vie ou toute votre énergie à améliorer la réputation du territoire et améliorer la vie des habitants du territoire. Donc je pense que vous le méritez, si c'est un titre, vous le méritez.
Tant que c'est pas la Trump Tower, tout va bien.
Dans le centre, on a beaucoup de monuments esthétiques magnifiques. Mmh. Ici, c'est des monuments humains qui servent beaucoup plus qu'une statue ou un clocher, je trouve.
C'est exactement ça. Justement, en parlant de cœur, moi je vais vous parler de Johnny and Rose, donc voilà, qui est un groupe rouennais que vous allez trouver sur le Festival Rush. Je suis tombé amoureux de ce groupe, je suis obligé. Donc voilà, je vous fais découvrir, je vous fais partager un peu mes sentiments. Monsieur Damien, sois pitié. Whispered in my ear all the words I love to hear. You
put a spell on my brain, yeah. When you said I would like to be close to you, maybe live next door on a different floor, pour a cup of sugar when I knock on your door. Oh, I want to be anywhere you are. I would like to be close to you, maybe live next door on a different floor, pour a cup of sugar when I knock on your door. Oh, I want to be anywhere you are. I want to be with you. You play the starring role of all my nights, and every cloud is a replica of you in the sky, passing by. Oh, you put a spell on my brain, yeah. When you said I would like to be close to you, maybe
close to you, donc de Jenny and Rose. Donc voilà, c'est un groupe composé d'un gars avec deux filles, voilà l'idéal quoi. Non, c'est une blague. Donc voilà, elle est pas juste après le blabla. Donc vous avez rendez-vous avec Campus Mag, et puis juste après, donc suivi de Polémix, la voix off. Et puis voilà, je vous dis à demain avec toute l'équipe au complet, avec Damien qui fera Marie demain. Ouais. Allez, va savoir. Damien fait Marie demain. Donc voilà, ça promet. Et puis voilà, bah, c'est à demain tout le monde. Et puis ciao.